Ici Taliane Roy et voici vos informations locales et régionales de CHJFM. Suicide d'Étau s'est particulièrement démarqué cette année. L'organisme s'est impliqué dans plusieurs activités, notamment avec la ville de Maniwaki, et a entamé de gros projets qui verront le jour au courant de l'année. La directrice de Suicide des Tours, Carole Saint-Amour, annonce fièrement qu'avec les fonds amassés lors du Poker Run des Hawks, le projet de maison d'hébergement pour les personnes à risque suicidaire verra officiellement le jour. L'organisme finalise présentement les documents du bâtiment locatif où sera situé le projet.
C'est un projet que ça fait à peu près 2 ans que je travaille. Puis là, en décembre 2022, on devrait voir l'ouverture de cette maison-là. 2 chambres, probablement. Au début, on visait 6 chambres à l'ouverture, sauf qu'on n'a pas eu le financement nécessaire avec le CISO. Donc, on a le bâtiment qui est loué. On devrait commencer les rénovations. Donc, d'ici décembre, on devrait pouvoir l'ouverture.
Le but de la directrice est d'offrir un service d'assistance 24/7, mais avec le peu de ressources et le manque de personnel, c'est un projet qu'elle qualifie d'inquiétant. Toutefois, elle se dit déterminée à ce que tout fonctionne comme espéré.
C'est sûr que ça m'inquiète. On connaît le manque de ressources partout, mais en même temps, je suis positive. Je me dis que tout va aller pour le mieux, puis je souhaite vraiment beaucoup. J'essaie de me motiver, j'essaie de voir le positif, puis de me dire on va trouver ce qu'il faut pour pouvoir faire l'ouverture.
D'ailleurs, les bureaux de Suicide des Tours déménageront en entièreté à la maison d'hébergement.
Suicide des Tours va tout déménager à la même place, donc l'organisme va déménager à la maison d'hébergement. Donc toutes les activités vont continuer là. Donc tout ce qu'on fait présentement, on va continuer à le faire, plus l'hébergement 24/7.
L'organisme célébrait dernièrement ses 25 ans d'existence au mois de mai. Toutefois, il n'avait pas eu la chance d'organiser quoi que ce soit afin de le souligner. Un événement pour la cause devrait avoir lieu aux alentours du mois de septembre prochain. Entre-temps, Suicide des Tours tiendra un salon communautaire dans la semaine du 10 septembre. Marqué par les contraintes sanitaires imposées par la COVID-19, par un déficit de plus de 30 000 $ et par le décès d'une fidèle participante, la dernière année n'a pas été de tout repos pour la Maison des jeunes de Gracefield, au contraire. Félix-Antoine Parent s'est entretenu avec la directrice générale de Jeunesse sans frontières et voici son reportage.
Jeunesse sans frontières a tenu à souligner de belle façon le départ de Chloé Jeté-Francœur, 16 ans, emportée par la maladie en septembre dernier. Désormais, l'organisme remettra chaque année le prix Chloé Jeté-Francœur, qui sera remis à la personnalité de l'année chez les adolescents de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Mélissa Vachon, directrice générale, a parlé avec émotion de ce moment marquant de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
L'équipe voulait souligner le passage de Chloé Jeté-Francœur, qui est une de nos ados qui est décédée à l'automne dernier. Ses parents étaient présents là, à la GEP et ce prix-là il va être remis annuellement. C'était pas mal la définition même de la personnalité de l'année.
Consciente des besoins des jeunes, et ce particulièrement dans le contexte pandémique, la Maison des jeunes de Gracefield tenait à être présente plus que jamais auprès des jeunes de la communauté. Pour ce faire, l'organisme a pu compter sur 4 intervenants qui ont permis de rejoindre davantage d'adolescents que par les années antérieures. Cependant, comme le financement versé à l'organisme ne permet pas d'embaucher autant de ressources, Jeunesse sans frontières s'est retrouvée avec un déficit d'un peu plus de 33 000 $. Comme les administrateurs entretiennent le souhait de poursuivre avec la même offre de services, ils comptent multiplier les représentations auprès du gouvernement et des acteurs locaux afin d'obtenir une bonification du financement. Voici les explications de Mélissa Vachon.
On va vraiment rencontrer les différents paliers gouvernementaux, faire la démonstration que ce qu'on fait, ça change des vies, puis que c'est essentiel dans le milieu de pouvoir les rassembler, les soutenir, puis les réengager dans les activités de façon structurée. Fait que maintenir une équipe plus grande, ça nous a permis de rejoindre des jeunes puis d'aller au-devant de ces jeunes-là. On a été en contact avec des jeunes, on a vu des jeunes. Ça a été payant en termes de rencontres avec des jeunes.
Au courant de la prochaine année, Jeunesse sans frontières poursuivra également les démarches entamées en vue de relocaliser la Maison des jeunes dans un endroit qui répond davantage à ses besoins. C'était Félix-Antoine Parent pour CHJFM.
La première phase de la réintégration des résidents du CHSLD de Maniwaki s'est amorcée hier. Le directeur des services aux personnes âgées, Benoît Major, mentionne que le déménagement d'hier s'est déroulé de meilleure façon que la relocalisation du mois dernier. Malgré des réactions provenant de certains résidents ayant des troubles cognitifs, les résidents soulignent qu'ils ont été bien accueillis et bien logés dans leur résidence temporaire au Château-Laugue. Monsieur Major donne plus de précision.
On a même des personnes ce matin qui nous ont dit « Ah, moi, je veux pas retourner, j'aime ça à l'hôtel. » C'est que ça démontre à quel point les gens ont bien réagi. C'est sûr que, bon, il y a des réactions là, chez les personnes quand ils ont des troubles cognitifs. On s'y attendait, on était prêts, on les a gérés en conséquence. Mais c'est sûr que des déménagements comme ça, on veut pas faire ça régulièrement.
L'inondation de cette année est la troisième qui survient au cours des 6 dernières années. Benoît Major souligne que la gestion et la communication entre les différentes instances impliquées se sont mieux déroulées cette année comparativement aux années précédentes.
Malgré le fait qu'on pensait avoir sauvé le printemps 2022 au moment où on était, là, mais effectivement, on peut dire cette fois-ci que ça s'est bien déroulé dans les circonstances. Ça démontre, dans le fond, tout le travail de préparation qui avait été fait. Des équipes ici, les services techniques, les équipes cliniques, le lien avec Hydro-Québec, avec l'Organisation régionale de sécurité civile. Donc, ça s'est bien fait.
Le directeur des services aux personnes âgées souhaite que le prochain déménagement des résidents ne soit pas pour une inondation, mais bien pour intégrer le nouveau CHSLD qui est prévu pour 2024. L'opération de réintégration se poursuit aujourd'hui. Les derniers résidents, soit ceux qui ont dû être localisés temporairement à l'hôpital de Maniwaki, pourront retrouver leur résidence habituelle au courant de la journée. C'est ce qui conclut vos informations locales et régionales de CHGFM.